Chapitre 7. La crainte de ce qu'un tel caractère pouvait lui avoir fait exécuter me hanta pendant les jours qui suivirent. J'attendais un signe de Mistina. Je considérais presque comme son devoir de me tenir au courant, de me faire savoir définitivement si Miss Bordereau avait ou non sacrifié ses trésors. Mais voyant qu'aucun signe ne venait, je me décidai à m'éclairer par mes propres moyens. Une fin d'après-midi, j'envoyai demander si je pouvais rendre visite à ces dames, et mon domestique revint avec les plus surprenantes nouvelles. Miss Bordereau pouvait être approchée sans la moindre difficulté. Elle avait été amenée à la salle et était assise auprès de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Je descendis et je vis que le tableau était exact. La vieille dame avait été brouettée jusque dans le monde, et avait un certain air, qui venait peut-être surtout de quelque élégance dans ses vêtements, de vouloir s'y mêler de nouveau. Le monde, cependant, n'avait pas encore commencé à affluer. Elle était absolument seule, et bien que la porte qui menait à ses appartements fût restée ouverte, je n'aperçus pas tout d'abord Mistina. La fenêtre où elle était assise était à l'ombre l'après-midi. On avait ouvert une persienne, et elle pouvait voir le joli jardin où le soleil de l'été avait maintenant desséché bien des plantes. Elle y pouvait voir la lumière dorée, les longues ombres. « Venez-vous me dire que vous gardez les chambres 6 mois de plus ?» me demanda-t-elle comme je l'approchais. Je fus saisi par une sorte de vulgarité dans son avarice, presque autant que si elle ne m'eût pas encore offert de spécimen. Ce désir de Juliana de rendre nos relations lucratives m'apparaissait, je l'ai suffisamment répété, comme une fausse note dans l'image harmonieuse que je me faisais de la femme qui avait inspiré au grand poète des lignes immortelles. Mais je dois dire ici, d'une façon définitive, qu'après tout, il y avait bien des raisons de l'excuser. C'était moi qui avais allumé la flamme coupable. C'était moi qui lui avais mis dans la tête qu'elle possédait un moyen de gagner de l'argent. Elle semblait n'y avoir jamais pensé. Elle avait vécu mesquinement pendant des années, dans une maison 10 fois trop vaste pour elle, avec une apparence de grandeur que je ne m'expliquais qu'en supposant que, tout immense qu'il fût, l'espace qu'elle occupait ne lui coûtait presque rien, et que pour mince qu'il fût, ses revenus lui permettaient, à Venise, ce superflu. Mais un beau jour, j'étais tombé du ciel, je lui avais appris à calculer, et la comédie presque extravagante que j'avais jouée au sujet du jardin me présentait presque irrésistiblement comme une proie. Ainsi qu'à toutes les personnes auxquelles il arrive le miracle de changer de point de vue dans leur vieillesse, sa conversion avait été totale. Elle s'était jetée sur mon indication avec une passion frémissante et désespérée. Je m'invitai moi-même à aller prendre une des chaises adossées au mur à quelque distance. Elle ne montrait aucun souci de me savoir assis ou debout. Et je me plaçai auprès d'elle en m'exclamant gaiement « Chère madame, quelle imagination vous avez! Quelle puissance de conception! Je suis un pauvre diable d'homme de lettres qui vit au jour le jour. Comment puis-je louer des palais à l'année? Mon existence est précaire. Je ne sais si j'aurai du pain dans 6 mois. Pour une fois, j'ai voulu me gâter, ça a été une volupté immense. Mais, pour ce qui est de continuer... Trouvez-vous les chambres trop chères? En ce cas, je pourrais vous en offrir davantage, et au même prix, répondit Juliana. Nous pouvons nous arranger, combinare, comme on dit ici. Eh bien, oui, puisque vous me le demandez, oui, elles sont chères. Beaucoup trop chères, dis-je. Évidemment, vous me croyez plus riche que je le suis. Elle me regarda comme une sorcière à l'entrée de sa caverne. Mais si vous écrivez, vous ne vendez donc pas vos livres? Ah, vous voulez dire, on ne les achète donc pas? Oh, un peu, très peu, pas autant que je le désirerais. Écrire des livres, à moins d'être un grand génie, et encore, est la dernière route qui mène à la fortune. Je crois que les belles lettres ne peuvent plus enrichir leur âme. Peut-être ne choisissez-vous pas de bons sujets. Lesquels traitez-vous ? Poursuivit implacablement Miss Barlow. Oh, j'écris sur les livres des autres. Je suis un critique, un commentateur, un historien en petit. Je me demandais où elle voulait en venir. Et quels autres, au juste ? Ben, ceux qui valent mieux que moi. Les grands écrivains, principalement. Les grands philosophes, les poètes d'autrefois. Ceux qui sont morts à jamais et ne peuvent, les chers disparus, travailler pour eux-mêmes. Et qu'en dites-vous ? Oh, je dis que ce sont quelquefois épris de femmes très douées, répliquai-je en manière de plaisanterie. J'avais cru avoir calculé à leur juste valeur l'audace de mes paroles. Cependant, à mesure qu'elles résonnaient dans l'air, leur imprudence me frappa. Enfin, elles étaient lancées et je ne le regrettais pas, car après tout, peut-être la vieille femme serait-elle désireuse de traiter. Il paraissait assez vraisemblable qu'elle connût mon secret. Pourquoi alors faire traîner les choses ? Mais elle ne prit pas ce que j'avais dit pour une confession. Elle demanda seulement « Croyez-vous que ce soit bien de remuer le passé ?»« Oh, je crois que je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par remuer. Comment pouvons-nous le découvrir si nous ne creusons pas un peu ?» Les gens d'aujourd'hui le piétinent si brutalement. Oh, oui, j'aime le passé, mais je n'aime pas les critiques, déclara mon hôtesse avec une complaisance hautaine. Oh, moi non plus, mais j'aime leurs découvertes. Oh, ne sont-ce pas des mensonges la plupart du temps ? Les mensonges sont souvent ce que leurs travaux les amènent à découvrir, dis-je, souriant de sa rare insolence. Il révèle souvent la vérité. La vérité appartient à Dieu, non aux hommes. Il vaut mieux le laisser tranquille. Qui peut en juger, mais qui a le droit de parler ? Nous sommes environnés de ténèbres, je le sais, admis-je, mais si nous renonçons à toute recherche, qu'adviendra-t-il de Plard ? Qu'adviendra-t-il des œuvres dont je parlais tout à l'heure, celles des philosophes et des poètes ? Ce ne sont que paroles vaines si nous ne les mesurons pas d'après notre propre cœur. Vous parlez comme un tailleur, dit drôlement Miss Bordereau. Puis elle ajouta, très vite et sur un ton différent, cette maison est fort belle. Les proportions en sont magnifiques. J'ai voulu revoir ce côté aujourd'hui. Je me suis fait amener ici. Quand votre domestique est venu demander si je voulais vous recevoir, j'étais sur le point de vous envoyer chercher pour savoir si vous n'aviez pas l'intention de rester. Je voulais me rendre compte de ce que je vous loue. Cette salle-là est vraiment grandiose, continua-t-elle comme un commissaire-priseur, tournant de côté et d'autre, je le devinais, ses yeux invisibles. Je ne crois pas que vous ayez souvent habité une telle maison, hein ? Mes moyens ne me le permettent pas, dis-je. Eh bien alors, que me donneriez-vous pour 6 mois ? Je fus sur le point de m'écrier, et vraiment la figure de crucifié que je devais faire était l'expression d'une réalité morale. Arrêtez, Juliana, pour l'amour du poète, arrêtez ! Mais je me maîtrisais et je demandais moins ardemment « Mais pourquoi resterais-je si longtemps ?»« Je croyais que vous vous plaisiez ici, » dit Miss Bordereau avec sidinité sèche. « Oui, j'espérais m'y plaire. » Elle ne dit rien de plus pendant un moment et je laissais mes paroles opérer. Je m'attendais presque à lui entendre dire, plutôt froidement, qu'il était inutile de continuer le débat du moment que j'étais déçu. Et cependant, mes paroles chagrines n'auraient nullement dû l'étonner, car j'étais convaincu qu'elle savait maintenant comment y était-elle arrivée, ce qui me causait ce désappointement trop naturel. Mais à mon extrême surprise, elle finit par dire « Si vous trouvez que nous n'avons pas traité assez bien, peut-être serait-il possible de découvrir quelques moyens de vous traiter mieux. » Ce discours était tellement incongru, en quelque sorte, qu'il me fit rire de nouveau et je m'en excusai en disant qu'elle me parlait comme un gamin qui boudrait dans un coin et qu'il fallait ramener. Je n'avais pas l'ombre d'une plainte à faire. Y avait-il rien qui pût excéder la gracieuseté que m'avait montrée Mistina en m'accompagnant l'autre soir à la piazza? La vieille femme répliqua alors « Vous n'avez que vous-même à remercier. » Puis, sur un ton différent, « C'est une très belle fille. » J'acquiesçai cordialement à cette proposition, et elle exprima l'espoir que je n'avais pas agi seulement pour lui être agréable, mais qu'elle me plaisait réellement. Bon, je me demandais avec un étonnement croissant où Miss Bordereau voulait en venir. « En dehors de moi, dit-elle, elle n'a plus aujourd'hui aucun parent au monde. » Voulait-elle, en décrivant ainsi sa nièce comme une personne aimable et désencombrée, la présenter comme un parti? C'était absolument vrai que je ne pouvais me permettre de continuer à payer mes chambres à un prix de pure fantaisie et que mon entreprise avait déjà consommé presque tout l'argent que je m'étais promis de lui consacrer. Ni ma patience, ni le temps dont je pouvais disposer n'étaient à bout, mais je ne vous en usais désormais qu'en me rapprochant des prix habituels à Venise. J'étais prêt à payer à la précieuse personne avec laquelle mes rapports pécuniaires étaient si difficultueux le double de ce que m'aurait demandé tout autre padrona di casa, mais je n'étais pas prêt à payer 20 fois plus. Je le lui dis carrément. Et cette franchise sembla lui plaire car elle s'écria « Très bien, alors vous faites ce que je vous ai demandé. Vous faites une offre. » « Oui, mais pas pour un semestre, au mois seulement. » « Oh, alors il faut que j'y réfléchisse. » Elle semblait désappointée de ce que je ne voulusse pas me lier pour une telle période, et je désirais deviner qu'elle voulait à la fois me garder et me décourager, me dire sévèrement « Auriez-vous imaginé en être quitte pour moins de 6 mois ? Auriez-vous imaginé que, même à ce moment, vous approchiez le but d'une manière appréciable ?» Ce qui me trottait le plus dans la tête était que peut-être la fantaisie lui avait pris de me jouer ce tour, de me forcer à m'engager quand, dans le fait, elle avait déjà anéanti son trésor. À ce moment, mon angoisse à ce sujet devint tellement aiguë que la question fut près de m'échapper. Ce qui me retint, ce fut mon recul instinctif devant la brutalité d'une confession complète, brutalité à laquelle pouvait encore s'ajouter la maladresse d'une fausse manœuvre. Elle était une si subtile vieille sorcière qu'on ne savait jamais quelle attitude prendre avec elle. Vous pouvez imaginer, si ce me fut un éclaircissement de l'énigme, de l'avoir tirée de sa poche, sans aucune transition, juste après m'avoir dit qu'elle réfléchirait à ma proposition, un petit paquet enveloppé d'un papier blanc tout chiffonné. Elle le tint dans la main d'un air plutôt embarrassé, pendant un moment, puis résuma ainsi ses réflexions. « Vous connaissez-vous en curiosité ?»« En curiosité ?»« Oui, en choses anciennes, ces vieux bibelots qu'on paye si cher aujourd'hui. » « Savez-vous les prix qu'elles font ?» Je crus comprendre ce qui allait venir, mais je répondis ingénument. « Désirez-vous acheter quelque chose ?»« Non, non, je désire vendre. Qu'est-ce qu'un amateur me donnerait de ceci ?» Elle déplia le papier blanc et fit un mouvement vers moi comme pour tendre un petit portrait ovale. Je m'en emparais avec des doigts dont je ne pouvais espérer qu'ils ne trahissaient pas l'âpreté de leur prise. Je ne m'en séparerai que pour un bon prix. Au premier coup d'œil, Je reconnus Jeffrey Aspern si j'eus parfaitement conscience que je rougissais. Cependant, comme elle m'observait, j'eus la présence d'esprit de m'écrier « Oh, quel visage ressaisissant ! Dites-moi qui c'est ? » Oh, c'est un vieil ami à moi, un homme très distingué de son temps. Il me l'a donné lui-même, mais je craindrais de citer son nom, de peur que vous ne l'ayez jamais entendu, et tout critique et historien que vous soyez. Je sais que ce monde va vite et qu'une génération chasse l'autre. Il était tout ce qu'il y a de plus à la mode quand j'étais jeune. » Elle était peut-être stupéfaite de mon assurance, mais je puis dire que la sienne me surprenait aussi. Avoir l'énergie, dans son état de santé et à son âge, de prendre plaisir à jouer ce jeu avec moi, simplement pour son divertissement personnel, trouver assez d'entrain pour m'éprouver, me faire marcher, me ridiculiser. Voilà du moins l'interprétation que je donnais à l'exposition de la relique, car je ne pouvais croire qu'elle désirât réellement la vendre, ou même qu'elle tînt à ce que je lui donnasse une information sérieuse. Ce qu'elle désirait, c'était la faire danser devant mes yeux, et me demander un prix prohibitif. Ce visage me hante, il me persécute, dis-je, tournant l'objet de ci, de là, et l'examinant en critique sévère. C'était une œuvre soignée, mais non de premier ordre, plus grande qu'une miniature ordinaire, et représentant un jeune homme d'une beauté remarquable, vêtu d'une redingorde verte à col haut et d'un gilet chamois. Je sentais dans ce petit ouvrage le don de la ressemblance, et je jugeais qu'il avait dû être peint lorsque le modèle avait environ 25 ans. Comme chacun sait, il existe dans le monde trois autres portraits du poète, mais aucun n'est antérieur à cette élégante image. Oh, je n'ai jamais vu l'original, qui est clairement un homme du temps passé, mais j'ai vu d'autres reproductions de ses traits, continuai-je. Vous avez exprimé un doute que notre génération connût ce monsieur, mais il me donne tout à fait l'impression d'être un homme célèbre. Voyons, qui est-il ? Oh, je ne peux pas dire au juge, je ne peux pas l'identifier. N'est-ce pas un écrivain ? Oh, c'est un poète, sûrement. J'étais bien déterminé à ce que ce fût elle, et non moi, qui prononça la première le nom de Jeffrey Aspern. Ma détermination n'avait pas tenu compte du caractère extrêmement résolu de Miss Bordereau, et jamais ses lèvres ne proférèrent devant moi les syllabes qui représentait tant de choses pour elle. Elle négligea de répondre à ma question, mais leva la main pour reprendre le portrait, et d'un geste bien qu'impotent, se révélait nettement péremptoire. Il n'y a qu'une personne vraiment au courant qui voudra jamais payer mon prix, dit-elle avec une certaine sécheresse. Vous avez donc un prix ? Je n'avais pas rendu le charmant objet, non pas que j'entretinsse quelque projet de vengeance, mais parce que je m'y cramponnais instinctivement. Nous nous regardâmes fixement tandis que je le retenais. Oh, je sais le prix le plus bas auquel je le céderais. Ce que je désirais savoir de vous est le prix le plus élevé que j'en pourrais obtenir. Elle fit le mouvement de se ramasser sur elle-même, comme si dans un spasme de terreur d'avoir perdu son joyau, elle allait être contrainte à l'effort immense de se lever pour me l'arracher. Je le reposai immédiatement dans sa main tout en disant « Ah, j'aimerais bien le posséder, mais avec les idées que vous avez, c'est très au-dessus de mes moyens. » Elle retourna le petit cadre ovale sur ses genoux pour m'en cacher la peinture, et je l'entendis haleter comme une personne qui vient de faire un effort ou d'échapper à un péril, ce qui ne l'empêcha pas de dire sitôt après Vous achèteriez le portrait d'une personne que vous ne connaissez pas, exécuté par un artiste sans réputation? Oh, l'artiste peut n'avoir pas de réputation, mais cette œuvre est étonnamment bien peinte, répliquai-je, pour fournir une raison quelconque. Et vous avez de la chance d'avoir trouvé cette explication, car le peintre était mon père. Voilà qui rend le tableau réellement précieux, dis-je gaiement. Et je puis ajouter qu'une part de ma gaieté venait de cette preuve qui corroborait ma théorie sur les origines de Miss Bordereau. Aspern, tout naturellement, avait rencontré la jeune personne en venant poser dans l'atelier de son père. Je dis à Miss Bordereau que si elle me confiait sa propriété pendant 24 heures, je me ferais un plaisir de prendre l'avis d'un expert, mais sa seule réponse fut de la glisser silencieusement dans sa poche. Ceci manquera dans la conviction qu'elle n'avait pas sincèrement l'intention de vendre cet objet sa vie durant, bien qu'elle eût peut-être le désir d'être fixée sur la somme que sa nièce pourrait en tirer à l'occasion, si elle la lui léguait. Enfin, en tout cas, j'espère que vous ne l'offrirez à personne sans m'en avertir, repris-je, tandis qu'elle demeurait dans le silence. Pensez à moi comme un acheteur possible. Oh, je vous demanderai l'argent d'abord, répliqua-t-elle avec une grossièreté inattendue, puis comme si elle s'apercevait tout d'un coup que je pourrais me plaindre à bon droit de ce ton, et qu'elle désirait changer de sujet, elle me demanda brusquement de quoi je causais avec sa nièce quand je sortais avec elle le soir. Oh, « Vous en parlez comme d'une habitude prise, » répondis-je. « Certainement, je serais très content si cela devenait l'usage entre nous, un fort agréable usage. » Mais en ce cas, mon scrupule serait encore plus grand de trahir la confiance d'une dame. Sa confiance, ma nièce a une confiance à donner? Ah, la voici, elle pourra vous le dire elle-même, dis-je. Miss Tina paraissait sur le seuil du salon. Avez-vous de la confiance, Miss Tina? Votre tante désire vivement le savoir. Pas en elle, déclara la jeune personne, secouant la tête d'un air dolent, qui n'était ni plaisanterie ni affectation. Je ne sais que faire d'elle. Elle a des accès d'imprudence horribles. Tout la fatigue, et cependant la voilà qui se met à errer, à se traîner à travers la maison. Et elle regardait son compagnon de chaîne de toujours, d'un air à la fois absent et étonné, comme si leur vie commune et la longue habitude ne rendaient pas ces fantaisies perverses plus faciles à comprendre. Je sais ce que je fais, je ne perds pas la tête. Je suppose que vous le préféreriez, dit Miss Bordereau avec une crudité cynique. Bon, je ne pense pas que vous soyez venue ici toute seule. « Il a fallu que Miss Tina y prête la main, » interposai-je, conciliant. Oh, « elle a insisté, oui, pour que nous poussions ici son fauteuil. Et quand elle insiste, » dit Miss Tina de ce même ton plein d'appréhension, comme s'il était possible qu'un de ces jours, sa tante l'obligeât à lui rendre quelque autre service qu'elle désapprouverait hautement. Dieu merci, la plupart des choses que j'ai voulu faire l'ont été. Les gens avec lesquels j'ai vécu m'ont toujours cédé, continua la vieille femme, se plongeant dans les cendres grises de son insatiable vanité. Je pris la chose gaiement. Ah, vous voulez dire que tout le monde vous obéissait? Eh bien, si vous voulez, quand on vous aime... « Et c'est justement parce que je vous aime que je veux vous résister, » dit Miss Tina en riant nerveusement. Oh, je m'attends à ce que vous ameniez un de ces jours, Miss Bordereau là-haut me rende visite, » continuai-je. À quoi la vieille dame répliqua, « Oh non, non, je puis avoir l'œil sur vous d'ici. Vous êtes très fatigué, vous serez certainement malade demain, » s'écria Mistina. « Sottise, ma chère, je me sens en ce moment mieux que je ne l'ai déjà été depuis un mois. Je reviendrai demain, je veux être là où je puis voir ce monsieur si cultivé. Oh, ne me verriez-vous pas mieux dans votre salon ?» demandai-je. N'auriez-vous pas là une meilleure occasion de me voir vous-même, voulez-vous dire ? Riposta-t-elle, me fixant un instant de sa visière verte. Ah, cette occasion-là, je ne l'ai eue nulle part. Je vous regarde, mais je ne vous vois pas. Vous l'agitez terriblement, et ce n'est pas bon pour elle, dit Mistina, avec un mouvement de tête plein de reproches à mon adresse. Je veux vous surveiller, je veux vous surveiller, continuait Miss Bordereau. Eh bien, alors, passons le plus de temps possible ensemble. Où vous voudrez, cela m'est égal, cela vous donnera toute facilité. Oh, pour aujourd'hui, je vous ai assez vu. Je suis satisfaite. Rentrons maintenant, dit Juliana. Mistina posa les mains sur le dossier du fauteuil roulant et se mit à le pousser, mais je la suppliais de me laisser prendre sa place. Oui, oui, vous pouvez me mener de ce côté, d'un autre jamais, s'écria la vieille femme, tandis qu'elle se sentait rouler tout droit et très doucement sur le sol uni et dur comme du marbre. Avant d'atteindre la porte de son appartement, elle me pria d'arrêter et elle jeta un dernier et long regard du haut en bas de la noble salle. « Oh, c'est une maison prodigieuse !» murmura-t-elle. Après quoi, je la poussai plus loin. Lorsque nous fûmes dans le salon, Mistina me fit entendre qu'elle pouvait maintenant se charger de sa tante, et au même instant, la petite servante accourut au-devant de sa maîtresse. L'idée de Mistina était évidemment de mettre sa tante au lit tout de suite. Je dois confesser qu'en dépit de cette urgence, je me sentis coupable d'indiscrétion en m'attardant dans cette pièce. J'y étais retenu par la sensation d'être tout près des objets que je convoitais. Ils étaient sans doute rangés quelque part dans cette chambre fanée et inhospitalière. Elle était cependant d'une nudité qui excluait l'idée de trésor caché. Il n'y avait ni coin noyé d'ombre, ni angle enveloppé de rideaux, ni cabinet massif, ni coffret bardé de fer. D'ailleurs, il était possible, il était même probable, que la vieille dame consignait ses reliques dans sa chambre à coucher, dans quelques boîtes éraillées, poussées sous son lit, dans le tiroir de quelques toilettes boiteuses, où la lumière diffuse de sa veilleuse lui permettait encore de les apercevoir la nuit. Néanmoins, mes yeux se posaient sur chaque meuble, sur tout ce qui pouvait abriter un secret, et remarquèrent qu'il y avait une demi-douzaine de choses à tiroir, et en particulier un vieux secrétaire très haut, de style empire, avec des ornements de cuivre. Réceptacle légèrement infirme, mais encore capable de garder le précieux secret. Je ne sais pourquoi cet objet m'attirait à ce point, car j'étais loin de songer à pénétrer dans son intérieur, mais je le fixais tellement que Mistina le remarqua et changea de couleur. Cela me fit penser que je touchais juste et que les papiers d'Aspern languissaient derrière cette mauvaise petite serrure à cette heure, quelle qu'ait pu être leur cachette à un autre moment. Il était bien dur de m'arracher à la contemplation de ce sombre acajou quand je réfléchissais qu'un simple panneau me séparait seul du port tant désiré. Mais je rassemblais les débris épars de ma prudence et avec un effort, je pris congé de mon hôtesse. Pour donner plus de grâce à cet effort, je lui dis que je lui apporterai certainement un avis concernant le petit portrait. « Le petit portrait ?» demanda Mistina, surprise. Que savez-vous de cela, ma chère ? Demanda la vieille femme. Tenez-vous tranquille, mon prix est fait. Et quel peut bien-il être ? 25 000 francs. Seigneur ! S'écria Mistina malgré elle. Est-ce de cela qu'elle vous parle ? Dit Miss Bordereau. Mais pourrait-on imaginer que notre conversation intéresse votre tante ? Ce furent les mots sur lesquels je fus obligé de quitter ma plus jeune amie, bien que j'eusse l'immense désir d'ajouter « Au nom du ciel, venez me rejoindre ce soir au jardin. » Chapitre 8. Les choses tournèrent de telle façon que cette précaution aurait été inutile à prendre, car 3 heures plus tard, juste comme je finissais de dîner, Mistina apparut, sans être annoncée, à la porte ouverte de la pièce où mes simples repas m'étaient servis. Je me rappelle bien que je n'éprouvais aucune surprise en la voyant. Notez que ceci ne prouve nullement que je ne croyais pas à sa timidité. Elle était immense, je le savais. Mais dans un cas où il n'y avait à montrer de l'audace, elle ne l'empêcherait jamais de courir chez moi. Je vis qu'elle était actuellement poussée par une raison toute particulière qui la précipita vers moi en me saisissant le bras comme je me levais pour la recevoir. « Ma tante est très mal, je crois qu'elle se meurt. »« Jamais de la vie, » répondis-je amèrement, « ne vous frappez pas. »« On va aller chercher un médecin. Allez, je vous en prie. » Olympia est à la recherche d'une autre, mais elle ne revient pas. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. Je lui ai dit que si elle ne le trouvait pas chez lui, elle devait aller là où on lui dirait qu'il serait, et apparemment, elle le poursuit à travers Venise. Je ne sais que faire, elle a l'air de quelqu'un qui s'éteint. « Me permettez-vous de la voir, d'essayer de me rendre compte ? » demandai-je. Je serais bien entendu très heureux de pouvoir vous ramener quelqu'un, mais ne vaudrait-il pas mieux envoyer mon domestique et que je reste avec vous ? Mistina fut de cet avis, et je dépêchai mon homme chez le meilleur médecin du quartier. Je me hâtai de descendre avec elle, et chemin faisant, elle me raconta qu'une heure après mon départ, dans l'après-midi, Miss Bordereau avait eu une crise d'oppression, éprouvant une difficulté terrible à respirer. Ce symptôme avait disparu, mais elle avait laissé si épuisée qu'elle ne revenait pas à elle. Elle semblait usée et prête à passer. Je répétais qu'elle n'était pas passée, qu'elle ne passerait pas de sitôt. Sur quoi Mistina me jeta un regard de côté plus sévère qu'aucun de ceux que j'avais eu jusqu'ici l'honneur de recevoir d'elle, et me dit « Mais vraiment, mais que voulez-vous faire entendre ? Je ne suppose pas que vous l'accusiez de simulation ?» J'oublie quelle fut ma réponse, mais je crains qu'au fond du cœur, je ne crusse la vieille femme capable des plus sinistres manœuvres. Mistina voulait savoir ce que je lui avais fait. Sa tante lui avait dit que je l'avais tant fâchée. Je déclarais que je n'avais rien fait du tout. J'avais été extrêmement prudent. À quoi mon ami répliqua que sa compagne lui avait assuré qu'il y avait eu une scène entre nous, une scène qui l'avait bouleversée. Je répondis avec un certain ressentiment que c'était elle qui m'avait fait une scène, que je ne savais à quoi attribuer sa colère, sinon à mon incapacité de payer 25 000 francs le portrait de Jeffrey Osborne. Et elle vous l'a montré ? Gémit sourdement Mistina, qui sentait que la situation la débordait et que les éléments de sa destinée venaient s'amonceler peu à peu autour d'elle, sans résistance possible de sa part. Je lui avais répondu que je donnerais tout au monde pour la posséder, mais je n'avais pas les 25 000 francs. Puis je m'arrêtai. Nous étions à la porte de Miss Bordereau. La plus intense curiosité me poignait, mais je crus de mon devoir de représenter à Mistina que, si ma vue irritait la malade, il vaudrait mieux la lui épargner. « Votre vue, mais pensez-vous qu'elle puisse voir encore ? demanda ma compagne, presque indignée. Oui, je le pensais, mais je me gardais de le dire, et je suivis tout doucement mon guide. Je me rappelle que je lui dis un moment après, debout devant le lit de la vieille femme, « Ne vous montre-t-elle donc jamais ses yeux non plus? Ne les avez-vous jamais vus ?» Miss Bardot avait été dépouillée de la visière verte, mais... Oh, je ne devais pas avoir l'heureuse fortune de contempler Juliana en bonnet de nuit. La partie supérieure de son visage était couverte par une espèce de mousseline ou de dentelle malpropre, une sorte de capuchon informe qui tournait autour de sa tête et descendait jusqu'au bout de son nez, ne laissant de visible que ses joues ridées et ses lèvres crevassées, étroitement serrées comme par une expresse volonté. Miss Tina me jeta un coup d'œil étonné, ne voyant évidemment aucune raison à mon impatience. « Vous voulez dire qu'elle porte toujours quelque chose ?»« Ah oui, elle le fait pour les préserver. » « À cause de leur beauté ?»« Oh, aujourd'hui !» Et Miss Tina parlait à voix basse en secouant la tête. « Mais ils ont été splendides !» Aspern vous l'a dit lui-même. C'est vrai. En regardant de nouveau les chiffons dont s'enveloppait la vieille femme, je m'imaginais qu'elle ne voulait pas laisser supposer une exagération du grand poète, mais je ne perdis pas mon temps à considérer Juliana, dont la respiration était si faible qu'elle faisait douter de la possibilité de la sauver. Une fois de plus, mes yeux parcouraient la chambre, fouillant les cabinets, les commodes, les tables. Miss Tina nota immédiatement leur direction et lut aussi, je crois, ce qui s'y dissimulait. Mais elle n'y répondit pas et se détourna, anxieuse et agitée. Je sentis qu'elle me reprochait bien justement mon avidité qui frisait l'indécence en présence de notre compagne mourante. Tout de même, j'envisageais la situation sous un autre angle, m'efforçant de discerner quel meuble devait être interrogé le premier, si quelqu'un voulait porter la main sur les papiers de Miss Bordereau immédiatement après sa mort. La pièce était dans un désordre indescriptible. Elle rappelait une loge de vieille actrice. Des vêtements traînaient sur les chaises, puis ça et là, des paquets informes, des collections de boîtes en carton empilées les unes sur les autres, écornées, gonflées et décolorées, qui pouvaient bien dater de 50 ans. Un moment après, Miss Tina remarqua de nouveau quelle direction prenaient mes yeux, et comme si elle devinait quel jugement je portais sur ce spectacle, oubliant que je n'avais pas à en porter un, elle dit... Peut-être pour se disculper de complicité dans ce désordre. Oh, elle aime que les choses soient ainsi. Nous ne pouvons toucher à rien. Il y a des cartons qu'elle a possédés presque toute sa vie. Puis elle ajouta, mue par une certaine pitié de la pensée qui me dévorait, les choses étaient là. Et elle montrait du doigt une caisse petite et basse, sous un sofa juste assez grand pour la recouvrir. Cela me parut être une de ces malles étranges d'autrefois, en bois peint, aux poignets compliqués et aux courroies racornies, et dont la couleur, en dernier lieu, avait été revêtue d'une couche de vert pâle, avait presque entièrement disparu. La malle avait évidemment voyagé avec Juliana au temps passé, au temps de ses aventures qu'elle avait partagées. Elle aurait fait un singulier effet en arrivant dans un hôtel moderne. « Est-elle n'y sont plus ?» demandai-je, saisi par le sous-entendu de Miss Tina. Elle allait me répondre, mais à ce moment, le docteur entra, le docteur que la petite bonne avait été chercher et qu'elle avait enfin rejoint. Mon domestique, parti pour exécuter mon ordre, l'avait rencontré, ramenant son compagnon. Animé de cet esprit vénitien si évidemment sociable, il était revenu sur ses pas avec eux et était monté assis jusqu'au seuil de la chambre de la padrona, où je le découvris tout à coup, louchant par-dessus l'épaule du docteur. Je lui fis signe de s'en aller, d'autant plus vivement que la vue de sa face furteuse me rappela combien j'étais moi-même peu à ma place en ce lieu. Impression confirmée par le coup d'œil sec que me jeta le petit docteur, qui me prit pour un rival arrivé avant lui sur le champ de bataille. C'était un petit monsieur, gras et alerte, coiffé du haut de forme professionnelle, qui semblait tout regarder, excepté sa malade. Il continua à me tenir en observation, comme si j'avais également besoin d'une potion. Aussi, je le saluai rapidement, et le laissai avec les femmes, et je descendis au jardin, fumer une cigarette. J'étais nerveux, je ne pus aller plus loin. Il m'était impossible de quitter la place. Je ne savais pas exactement à quoi je m'attendais, mais je sentais qu'il était important que je fusse là. J'errais dans les allées, la chaude nuit d'été était venue, fumant cigare sur cigare et surveillant la lumière des fenêtres de Miss Borderow. Je voyais qu'elles étaient ouvertes maintenant. La situation s'était modifiée. Quelquefois, la lumière changeait de place, mais sans rapidité. Cela ne suggérait pas l'agitation d'une crise. La vieille femme était-elle mourante ou déjà morte? Le docteur avait-il dit qu'il n'y avait plus rien à faire à son âge formidable que de la laisser passer doucement? Ou avait-il simplement annoncé, avec une expression plus conventionnelle, que la fin des fins était arrivée? Les deux femmes ne faisaient-elles pas qu'aller et venir dans l'exécution des soins qui accompagnent une telle circonstance? J'éprouvais du malaise à n'être pas plus près, comme si je pensais que le docteur lui-même était capable d'emporter les papiers. Je mordis violemment mon cigare quand la pensée m'assaillit de nouveau que peut-être il n'y avait point de papiers à emporter. J'errai ainsi environ une heure. Je regardais attentivement une des fenêtres dans l'espoir d'y voir Miss Tina, avec la vague idée qu'elle pourrait y venir me faire quelques signes. N'apercevait-elle pas le bout rougeoyant de mon cigare dans la nuit? Et ne sentait-elle pas que je piétinais dans l'obscurité, anxieux de ce que le docteur avait pu dire? Je crains de donner la preuve de l'indélicatesse de mes préoccupations, en avouant ma conviction intime que la pauvre Miss Tina, au moment même où s'effectuait le plus grand changement de sa vie, pouvait leur accorder une certaine part de sa pensée. Mon domestique descendit au jardin me parler. Il ne savait rien, sauf que le docteur était parti après une visite d'une demi-heure. S'il était resté une demi-heure, c'est que Miss Borderow vivait encore. Il n'aurait pas fallu si longtemps pour constater son décès. J'envoyai mon homme au dehors. Il y avait des moments où sa curiosité m'ennuyait, et celui-ci en était un. Lui, du moins, avait observé le bout rougeoyant de mon cigare, les fenêtres de notre étage, si Miss Tina ne l'avait pas fait. Il ne pouvait savoir ce qui me menait, et je ne pouvais le lui dire, bien que je ne soupçonnasse de construire à mon sujet quelques théories fantastiques qu'il jugeait très fines et que j'aurais, moi, jugé offensantes si je les eusse mieux connues. À la fin, je me décidai à monter, mais je n'allais pas plus loin que la salle-là. La porte de l'appartement de Miss Borderow était ouverte et l'on apercevait la faible lueur d'une bougie brûlant dans le salon. Je m'y dirigeais d'un pas léger quand, au même moment, apparut Miss Tina qui me regarda m'approcher. « elle est mieux, » dit-elle avant même que je l'eusse interrogée. « Le docteur lui a donné quelque chose, elle s'est réveillée, elle est revenue à la vie pendant qu'il était là. Il dit qu'il n'y a pas de danger immédiat. » Pas de danger immédiat. Oh, sûrement, elle trouve son état grave. Oui, parce qu'elle a été excitée. C'est une chose qui l'affecte terriblement. Cela recommencera donc parce qu'elle s'excite elle-même. C'est ce qu'elle a fait cet après-midi. Oui, il ne faudra plus qu'elle quitte sa chambre, dit Mistina, retombant dans un accès de complet détachement. À quoi sert une réflexion de ce genre, osais-je demander, si vous vous mettez à la trimballer de nouveau partout la première fois qu'elle vous l'ordonnera? Non, je ne le ferai pas, je ne le ferai plus jamais. Il faudra que vous appreniez à lui résister, continuai-je. Oui, j'apprendrai. Et je l'apprendrai mieux si vous me dites qu'il le faut. Oh, il ne faut pas faire cela pour moi. Il faut le faire pour vous-même. Le dommage est pour vous, quand vous vous sentez effrayé et bouleversé. Oh, bien. Oh, je ne suis pas bouleversé maintenant, dit Miss Dina avec placidité. Elle est très tranquille. Est-elle consciente, parle-t-elle? Non, elle ne parle pas, mais elle me prend la main, elle la tient serrée. Oui, répliquai-je, je peux me rendre compte de la force qu'elle possède encore par la façon dont elle m'a arraché le portrait cet après-midi. Mais si elle vous tient si fort, comment vous trouvez-vous ici? Mistina se tut. Bien que son visage fût dans une ombre profonde, elle tournait le dos à la lumière du salon et j'avais posé ma propre bougie fort loin à la porte de la salle-là. Il me sembla la voir sourire ingénument. Je suis venu exprès, j'avais entendu votre pas. Mais je suis venu sur la pointe des pieds, aussi silencieusement que possible. Eh bien, je vous ai entendu, dit Mistina. Et votre tante est-elle seule actuellement? Oh non, Olympia est là. J'hésitais à parler, puis je lui indiquai le salon. Alors, pouvons-nous aller là? Le désir d'être sur les lieux m'envahissait de plus en plus. Oh, nous ne pourrions pas y causer, elle entendrait. Je fus sur le point de répondre que dans ce cas, nous pourrions y rester en gardant le silence. Mais je sentais trop que cela ne ferait pas mon affaire, tant était vif mon désir de lui poser une question. Je lui proposai donc de marcher un peu dans la salle-là, en nous tenant à l'extrémité la plus éloignée où nous ne risquerions pas de troubler notre amie. Mistina accepta aussitôt sans réflexion. Le docteur allait revenir, dit-elle, et elle serait là pour le recevoir. Nous commençâmes à aller et venir à travers la belle et noble salle, où nos pas résonnaient sur le marbre plus que je m'y étais attendu, surtout pendant les premiers instants quand nous ne disions rien. Lorsque nous eûmes atteint l'autre bout, là où la grande fenêtre, éternellement close, ouvrait sur le balcon au-dessus du canal, j'admis qu'il valait mieux demeurer là, d'où elle verrait plutôt arriver le docteur. J'ouvris la fenêtre et nous passâmes sur le balcon. L'air du canal paraissait plus lourd, plus chaud encore que celui de la salle-là. Tout était vide et silencieux. Le paisible voisinage était endormi. Ici et là, une lampe se reflétant dans la voie d'eau étroite et noire, produisait un double scintillement. Nous entendions au loin la voix d'un homme qui se retournait chez lui en chantant, sa veste sur l'épaule et son chapeau sur l'oreille. Cela n'empêchait pas la scène d'être très comme il faut, ainsi que s'était exprimée Miss Bordereau, la première fois que je l'avais vue. Une gondole passa le long du canal, au bruit lentement rythmé de ses rames, et tout en écoutant, nous la guettions en silence. Elle ne s'arrêta point, elle ne portait pas le docteur. Après qu'elle eut passé, je dis à Miss Tina, « Et où sont-elles maintenant les choses qui étaient dans la malle ?»« Dans la malle ? Oui, cette guesse verte que vous m'avez signalée dans la chambre. Vous disiez que ces papiers y avaient demeuré. » Vous aviez l'air de dire qu'elle les avait transférés ailleurs. « Oh oui, ils ne sont pas dans la malle, » dit Mistina. « Oserais-je vous demander si vous y avez regardé ?»« Oui, j'y ai regardé, pour vous. »« Pour moi, chère Mistina, comment cela? Voulez-vous dire que vous me les auriez donnés si vous les aviez trouvés? Je tremblais presque en lui posant cette question. Elle tardait à me répondre et j'attendis. Subitement, elle laissa échapper. Oh, je ne sais ce que je ferai, ce que je ne ferai pas. Voudriez-vous chercher encore ailleurs? Elle avait parlé avec une émotion étrange et inattendue, et elle continua de même. Je ne peux pas, je ne peux pas tant qu'elle est là. Ce n'est pas convenable. Non, ce n'est pas convenable, priquai-je gravement. Que la pauvre dame repose en paix. Et ces mots sur mes lèvres n'étaient pas hypocrites, car je me sentais honteux et répréhensible. Mistina reprit bientôt, elle semblait deviner mes pensées et en souffrir pour moi, mais en même temps vouloir marquer que je la poussais ou du moins que j'insistais trop sur le même sujet. « Je ne peux pas la tromper de cette façon. Je ne peux pas la tromper, peut-être à son lit de mort. »« Oh, le ciel me préserve de vous le demander, bien que je sois coupable moi-même. »«
Vous coupable ?»«
Ben, je navigue sous pavillon de contrebande. » Je sentis qu'il fallait maintenant marcher à fond, lui avouer que j'avais pris un faux nom, de peur que sa tante n'eût entendu parler de moi, et à cause de cela, refusa de me recevoir. Je lui expliquai tout, et aussi que j'étais de moitié dans la lettre que leur avait adressée John Connor quelques mois auparavant. Elle écouta avec une profonde attention, la bouche quasi ouverte d'étonnement. Et quand ma confession fut achevée, elle dit « Alors, votre vrai nom, quel est-il ?» Lorsque je le lui dis, elle le répéta deux fois de suite avec des exclamations « Mon Dieu, mon Dieu !» Puis elle ajouta « Oh, je préfère le vôtre. » Moi aussi. Je sentais que mon rire sonnait faux. Ouf, oui, oh, c'est une délivrance d'être débarrassé de l'autre. Ainsi, c'était un vrai complot, une espèce de conspiration. Oh, une conspiration! Nous n'étions que deux, répliquai-je, laissant bien entendu Mrs. Spratt de côté. Elle réfléchissait. Je crus qu'elle allait me déclarer que nous avions montré une véritable bassesse de caractère. Mais telle n'était pas sa manière, et elle remarqua, après un moment, comme au sortir d'une impartiale et candide contemplation, « Combien vous devez les désirer ?»« Oui, passionnément, ricanai-je, je dois l'avouer. » Et emporté par l'occasion, je poursuivis, oublieux de la componction de tout à l'heure, mais comment est-il possible qu'elle les ait elle-même changé de place? Comment a-t-elle pu marcher? Comment a-t-elle pu faire un tel effort? Comment a-t-elle pu soulever, porter quelque chose? Oh, quand on désire quelque chose et qu'on a une telle volonté, dit Mistina, comme si elle s'était déjà posé la question et ne savait qu'y répondre, si donc en pleine nuit ou à quelque autre moment de solitude, la vieille femme avait été en effet capable d'un effort miraculeux. Avez-vous interrogé Olympia? N'a-t-elle pas aidé? N'a-t-elle pas exécuté la chose à sa place? Demandai-je. Ce à quoi mon ami répondit promptement et péremptoirement que leur servante n'avait rien à voir là-dedans, sans admettre toutefois qu'elle lui en eût jamais parlé. Il semblait qu'elle fût maintenant un peu intimidée, un peu honteuse, de me laisser voir combien elle avait pris de part à mon souci et combien elle pensait à moi. Soudainement, elle me dit, sans chercher de rapport avec ce qui précédait, « Vous savez, vous me semblez un homme nouveau, maintenant que vous avez un nouveau nom. »« Oh, il n'est pas nouveau, c'est un beau vieux nom, Dieu merci !» Elle me regarda, Eh bien, vraiment, je le préfère. Oh, si vous ne le préfériez pas, j'aimerais autant continuer à porter l'autre.
Vraiment, vous le porteriez?
Je me mis encore à rire, mais je ne fis que cette réponse. Naturellement, si elle peut fureter de cette façon, elle peut parfaitement les avoir brûlés.
Il faut attendre, il faut attendre, soupira doctement et tristement Mistina. Et son ton n'apporta que peu de soulagement à mon malaise, car il semblait après tout admettre l'horrible possibilité.
Je déclarais néanmoins que j'apprendrais à attendre, en premier lieu parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, et en second lieu parce qu'elle m'avait promis l'autre nuit de m'aider.
Naturellement, si les papiers ont disparu, je ne pourrais vous servir à rien, dit-elle. Non pas comme une personne qui veut se rétracter, mais seulement par excès de conscience.
Naturellement, mais si vous pouviez au moins être fixé là-dessus, murmurai-je plaintivement, repris par le frisson de la crainte.
Mais je croyais que vous m'aviez promis d'attendre.
Attendre même cela, voulez-vous dire?
Attendre quoi, si ce n'est cela?
Oh, rien, rien du tout, répondis-je plutôt sottement, honteux d'avouer ce que j'avais sous-entendu, en lui promettant d'être patient, obtenir peut-être plus et mieux qu'une certitude sur l'existence ou la destruction des papiers. Je ne sais si elle devina tout cela. En tout cas, elle sembla trouver convenable de déployer plus de rigueur.
Je ne vous ai pas promis de la tromper, n'est-ce pas?
Je ne crois pas avoir promis cela. Oh, cela n'a guère d'importance que vous l'ayez promis ou non, car vous êtes incapable de tromper.
Vraisemblablement, elle n'eût pas contesté cette déclaration, même si une diversion n'eût été créée par l'apparition de la gondole du docteur, qui enfilait le canal comme une flèche et s'approchait de la maison. Je remarquai qu'il venait aussi rapidement que s'il croyait notre propriétaire toujours en danger. Nous le regardâmes débarquer, puis nous rentrâmes dans la salle pour le recevoir. Quand il arriva cependant, je laissai Mistina s'en aller avec lui, lui demandant seulement sa permission de venir aux nouvelles un peu plus tard. Je sortis de la maison et m'en allai loin, aussi loin que la piazza, où mon agitation refusa de me quitter. J'étais incapable de m'asseoir. Il était très tard maintenant, bien qu'il y eût encore du monde aux petites tables devant le café. Je ne pouvais que malaisément faire le tour de la place. Je le fis cependant 5 ou 6 fois. Mon seul réconfort était d'avoir dit tout de même à Mistina qui j'étais. À la fin, je me décidai à rentrer. Je m'égarais graduellement et presque inextricablement, comme chaque fois que je sortais à pied dans Venise, de sorte que minuit était bien passé quand je me trouvais devant ma porte. Là-haut, la sala était obscure, comme à l'habitude, et pendant que je la traversais, ma lampe ne me montra rien de nature à me satisfaire. Je fus désappointé, car j'avais annoncé à Mistina que je reviendrais prendre des nouvelles, et je pensais qu'elle aurait pu laisser une lumière comme signe de sa prochaine venue. La porte de l'appartement de ces dames était fermée, ce qui me sembla indiquer que ma défaillante amie, lasse de m'attendre, était allée se coucher. J'étais là, debout, au milieu de la pièce, hésitant, espérant qu'elle m'entendrait et peut-être se glisserait hors de la porte. Je me disais aussi qu'elle ne se coucherait certainement pas dans l'état critique de sa tante. Elle passerait la nuit auprès d'elle à la veiller, sur une chaise en robe de chambre. Je vins près de la porte, je m'y arrêtai et j'écoutais. Je n'entendis rien, et je finis par frapper doucement. Il ne vint aucune réponse, et après une minute d'attente, je tournai le bouton. Il n'y avait pas de lumière dans la pièce. Cela aurait dû m'empêcher d'avancer, mais tel n'en fut pas l'effet. puisque j'ai franchement exposé les importunités, les indélicatesses dont mon désir de posséder les papiers de Jeffrey Aspern m'avait rendu capable, je n'ai pas de raison pour reculer devant l'aveu de cette dernière indiscrétion. Je la considère comme le pire de mes actes. Cependant, il y a des circonstances atténuantes. J'étais profondément anxieux, bien que sans doute cette anxiété ne fût pas désintéressée, d'avoir des nouvelles de Juliana, et somme toute, Mistina avait accepté de moi un rendez-vous auquel je pouvais mettre un point d'honneur à me rendre. Or, on peut objecter que le fait de laisser la pièce dans l'obscurité prouvait matériellement qu'elle me dégageait de ma promesse. Et à cela, tout ce que je puis répondre est que je ne désirais pas être dégagé. La porte de la chambre de Miss Bordereau était ouverte et j'y voyais briller la faible lumière d'une veilleuse. On n'entendait aucun son. Le bruit de mes pas ne dérangea personne. J'avançais dans la chambre. Je m'y attardais, ma lampe à la main. Je voulais donner à Mistina une occasion de venir. Et comme je n'en doutais pas, elle était toujours auprès de sa tante. Je ne fis aucun bruit pour attirer son attention. J'attendais seulement de voir si ma lumière ne l'attirerait pas. Elle ne l'attira pas. Et je me l'expliquais, la suite des événements me donna raison, par le fait qu'elle s'était endormie. Si elle s'était endormie, c'était que sa tante ne lui causait plus d'inquiétude, et mon explication aurait dû me porter à sortir comme j'étais entré. Je répète encore qu'elle ne m'y porte à point, car au même moment, j'étais la proie d'un autre sentiment. Je n'avais aucun propos défini, aucune mauvaise intention. Mais je me sentais enchaîné à ce lieu par l'instinct absurde mais intense d'une chance inespérée. Une chance pour moi, oh, de quoi je n'aurais pu le dire, car il ne me venait nullement l'esprit de procéder à un vol. Une telle tentation me serait-elle venue? Il était évident que Miss Bordereau ne laissait pas béant son secrétaire, son armoire et ses tiroirs. Je n'avais ni clé, ni outil, ni l'intention de démolir son mobilier. Néanmoins, la pensée me vint que j'étais maintenant seul, peut-être sans entrave à cette heure nocturne, libre et sûrement plus près que je ne l'avais jamais été de la source de ma folle espérance. J'élevai ma lampe, j'en fis jouer la lueur sur les divers objets qui m'entouraient, comme si elle pouvait m'apprendre quelque chose. Toujours aucun mouvement dans la chambre voisine. Si Mistina dormait, elle dormait ferme. Agissait-elle ainsi, ô généreuse créature, pour me laisser le champ libre? Savait-elle que j'étais là, et se tenait-elle tranquille pour voir ce que je ferais, ce qu'il m'était possible de faire? Et pourtant, que faire, même si les choses en venaient là? Elle-même, mieux que moi, le savait le peu qu'il y avait à tenter. Je m'arrêtai devant le secrétaire, haletant, vainement de désir, et grotesque sans doute, car après tout, qu'avait-il à me dire? En premier lieu, il était fermé à clé, et en second lieu, c'était à peu près certain qu'il ne contenait rien d'intéressant pour moi. Il y avait 10 contre 1 à parier que les papiers avaient été détruits, et même s'ils ne l'avaient point été, la pénétrante vieille femme ne les aurait pas mis à cette place, après les avoir tirés de la malle verte. Elle ne les aurait pas transférés, toute préoccupée qu'elle était de leur sécurité, d'une meilleure cachette à une pire. Le secrétaire attirait davantage les yeux. Il était plus exposé dans une chambre où elle ne pouvait plus monter la garde. Il s'ouvrait avec une clé, mais il avait également une petite poignée de cuivre qui ressemblait à un bouton. Je la vis en faisant jouer sur le meuble la lumière de ma lampe. Enfin, à l'apogée de la crise, je fis un pas de plus. Un éclair me traversa l'esprit. Peut-être Mistina désirait-elle me faire comprendre qu'il y avait là une chance possible. Si elle ne le désirait pas... Si elle désirait me tenir à l'écart, pourquoi n'avait-elle pas fermé à clé la porte de communication entre la salle-là et leur salon? ça aurait été me signifier définitivement que je devais les laisser tranquilles. Et si je n'avais pas à les laisser tranquilles, c'était me permettre tacitement de venir dans un but précis. Et je m'attachais à cette déduction suprêmement subtile que, pour m'obliger, elle avait donné à la serrure le tour de clé libérateur. La clé n'était plus là, mais la tablette s'abattrait probablement si je tournais le bouton. Une telle possibilité m'oppressait péniblement, et je me penchais vers le meuble jusqu'à le toucher, afin d'en bien juger. Je n'avais aucune intention, quelle qu'elle fût, même pas d'abaisser le panneau. Non, pas le moins du monde. Je voulais seulement mettre ma théorie à l'épreuve, voir si le panneau bougerait. Je voulus toucher le bouton du doigt. Le moindre contact me renseignerait. Et tandis que je le faisais, oui, c'est embarrassant pour moi d'avoir à le raconter, je regardais par-dessus mon épaule. Je le fis par hasard, par instinct, car je n'avais réellement rien entendu. Je laissais presque choir ma lumière, et je vis certainement un pas en arrière, me redressant vivement à la vue de ce qui se présentait devant moi. Juliana était là, debout dans l'encadrement de sa porte, en robe de nuit, et m'observait. Ses mains étaient dressées. Elle avait soulevé l'éternel rideau qui lui couvrait à demi le visage, et pour la première, la dernière, la seule fois, je contemplais ses yeux extraordinaires. Ils me dévoraient. Ils étaient comme le jet subit d'un flot de lumière sur le cambrioleur surpris. Ils m'imprégnèrent d'une honte insupportable. Jamais je n'oublierai son étrange petite forme blanche, branlante et courbée, avec sa tête dressée, son attitude, son expression. Je n'oublierai pas non plus le ton dont elle siffla passionnément et furieusement quand je me tournai vers elle. « Oh, canaille d'écrivain !» Je ne puis plus dire aujourd'hui ce que je balbutiais pour m'excuser, pour m'expliquer. Mais j'allais vers elle pour lui dire que je ne voulais pas mal faire. Elle agita ses vieilles mains pour me repousser, reculant pleine d'horreur devant moi. Et tout ce que je vis ensuite fut sa chute en arrière, accompagnée d'un spasme rapide, comme si la mort venait de fondre sur elle dans les bras de Mistina.